Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de Geek de quoi sur les jeux de société sur Kickstarter. Si vous trouvez que c'est un peu long, effectivement, on cherche un nom, on n'y est pas encore. J'espère avoir le nom pour le prochain épisode dans deux semaines. Mais en tout cas, on va voir si on est capable de trouver une idée qui regroupe tous ces concepts-là. C'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui fit avec tout, mais on continue d'y penser. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires par rapport au dernier épisode. C'est très apprécié, ça m'aide à ajuster tout ça. Entre autres, il y avait le commentaire de faire attention, dans le fond, au son par rapport à cogner sur la table, etc. Donc, j'ai rajouté un petit bras avec un choc monde qu'on appelle. Donc, j'espère que ça va aider au niveau du son. Merci à tous pour les commentaires. Donc, pour ceux qui c'est la première fois que vous joignez à nous, l'idée du podcast, c'est de regarder à chaque deux semaines ce qui se passe sur la plateforme Kickstarter, plus spécifiquement sur les jeux de société eux-mêmes. Donc, la structure du show, la première partie, c'est de parler des nouvelles campagnes. Donc, on va parler surtout de la première section qui est le premier tiers que j'appelle, qui est les campagnes qui ont vraiment dominé les deux dernières semaines en termes de visibilité, en termes de dollars récoltés aussi. Par la suite, on va parler d'extensions, d'accessoires de jeux qui aussi peuvent être des campagnes très, très positives souvent. On va parler aussi d'autres petites campagnes, un petit peu moins mises en valeur peut-être, je passe un peu plus rapidement, mais quand même des campagnes qui sont intéressantes. Et par la suite, on termine avec des petits sujets spéciaux et finalement des jeux reçus. On va parler aujourd'hui spécialement, on va parler des tarifs sur Kickstarter, donc les tarifs des jeux de société que les États-Unis sont en train d'imposer à la Chine. Là, c'est une petite partie de la négociation présentement, mais qui a un impact sur l'industrie des jeux de société. On va en parler brièvement. On va parler aussi d'une campagne que j'ai vraiment appréciée, le niveau de communication. Et finalement, on termine avec les jeux que j'ai reçus dans les dernières semaines sur la plateforme pour vous parler un petit peu de la qualité du matériel, etc. Des composants, bien souvent, malheureusement, c'est des jeux que je n'ai pas essayé encore, mais ça, je vais essayer de vous en parler lorsque je les aurai essayés. J'en ai un d'ailleurs dès que j'ai eu la chance d'essayer, donc je vais vous parler à la toute fin de l'épisode. On commence sans plus tarder avec la première campagne de ces deux semaines qui s'appelle It's a Wonderful World. C'est un jeu de cartes, un jeu de repêchage de cartes ou card drafting qui aussi nous permet de construire un engin. On est en train de construire un empire, on devra faire évoluer dans le temps cet empire-là. Vraiment un matériel de haute qualité, c'est les créateurs de Nita Tanka qui vient juste d'arriver. Je vais vous en parler un petit peu à la fin, j'ai à peine ouvert le matériel, mais c'est des créateurs, donc des Français qui ont créé ça, qui nous reviennent avec ce jeu-là, disponible aussi justement en anglais et en français. Entre autres, on en est à 277 000 $ de ramassés canadiens sur un objectif initial de 45 000. Donc, on a déjà débarré beaucoup d'objectifs. Et les gens qui sont derrière ça, qui sont la boîte de jeu, ont une belle, belle approche sur les objectifs supplémentaires. Vous allez voir, il y en a beaucoup. C'est intéressant, c'est bien fait. Quelques cartes à la fois, pas nécessairement énormes, mais on voit qu'on ajoute au jeu graduellement à travers la campagne. Ça vous coûtera environ 87 $ canadiens plus les frais d'expédition pour obtenir le jeu dans sa version deluxe, dans le fond, qui est la version qui, évidemment, est à se procurer sur la campagne. Sinon, vous pouvez toujours vous procurer la version de base pour 53 $ canadiens environ et vous obtiendrez le jeu aux alentours de février 2020. À voir la qualité de Nita Tanka et à voir ce que ces gens-là sont capables de produire, j'ai l'impression que ça va être un autre très beau succès pour les gens de la boîte de jeu avec It's a Wonderful World. Sinon, un grand classique cette semaine, la deuxième campagne dont je vous parle, c'est Space Invaders, The Board Game. Donc, c'est un classique du jeu vidéo, évidemment, pour les plus vieux d'entre nous. C'est un jeu qui date maintenant de plus de 40 ans, le jeu d'arcade Space Invaders, où vous êtes un petit vaisseau qui essaie de détruire les envahisseurs de l'espace. Et là, on a droit à un jeu de société de super belle qualité qui va vous permettre, dans le fond, de façon compétitive. Donc, c'est ensemble, vous allez combattre les extraterrestres, mais celui qui fera le plus de points, qui aura le high score, qui est assez classique dans les jeux d'arcade, va gagner la partie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un deck building, donc on utilise une mécanique que moi j'adore, et on l'applique à ce jeu-là avec un plateau, avec les différentes figurines, donc extrêmement intéressant du côté de Space Invaders de Board Game. C'est un nouveau studio, c'est leur première création, il s'appelle 612 Entertainment, ils ont la licence, pas de problème. J'ai donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On en est à 152 262 $ de ramasser sur un objectif initial d'environ 60 000, 2200 backers déjà. Et le projet est prévu pour livraison, attendez, c'est prévu pour livraison en décembre cette année, donc probablement pas, comme toujours, ça devrait arriver dans l'année suivante. Si je me fie à la moyenne, les campagnes promises en décembre, c'est très très rare que ça réussisse, mais peut-être que les gens de Space Invaders me feront mentir. La troisième campagne dont je vous parle, c'est un jeu un peu plus lourd qui s'appelle Icaion. Je le dis probablement très mal, mais c'est un jeu de construction de territoire et c'est-à-dire de construction d'engins de territoire et de gestion de ressources avec des figurines. Donc un jeu vraiment utilisant au maximum des super belles figurines. Il y en a de différentes tailles, dont le Colosse qui est tout simplement immense. Vraiment des figurines qui sont très très bien produites de ce côté-là. Donc un jeu qui devrait plaire, qui était pour 2 à 5 joueurs. Donc quand même intéressant du côté de Icaion. Ou Icaion, ça, quelque chose comme ça. Vraiment, je ne l'ai pas pour le nom de ce jeu-là. C'est Tabula Games, des gens qui ont créé ça, qui ont quand même pas mal de campagnes à leur actif. 5 campagnes, c'est la 5e, avec des beaux succès avec Voltiferion, avec Mystéa. Donc vraiment une belle option de ce côté-là avec Icaion. C'est des gens de l'Italie qui sont derrière la campagne. On en est à plus de 440 000 $ de ramassé. On est 4 fois l'objectif de 100 000 initial. Près de 3 000 backers et la livraison du jeu est prévue pour mai 2020 et vous devez backer avant le 11 juin, j'ai oublié de préciser, mais 11 juin pour la fin de la campagne. Si vous êtes intéressé par ce genre de jeu un peu plus basé sur les figurines avec construction d'engins qui semble très intéressant de la part des gens de Tabula Games. Le dernier highlight, puis vous remarquez, c'est pas les deux plus grosses semaines en termes de campagne qui ont ramassé des millions, c'est vraiment pas ça cette semaine, c'est un peu au ralenti, pas qu'il n'y a pas des excellentes campagnes, mais il n'y en a pas qui se démarquent et qui vont chercher le million de $ à travers cette période-là, donc c'est un peu différent. La quatrième campagne dont je vous parle, elle est toute fraîche. Elle est sortie durant le week-end dernier. Ça s'appelle Monstro City Rampage. C'est c'est une compagnie de Halifax au Canada qui est derrière ça, qui s'appelle Vesuvius Media. C'est déjà leur 9e campagne, donc ils en ont quand même fait pas mal de leur côté. C'est donc un jeu coopératif où vous incarnez des monstres et vous devez détruire une ville. Coopératif 1 à 4 joueurs, en une trentaine de minutes seulement, un jeu de dés très rapide qui se joue en temps réel, donc pas à tour de rôle, qui devrait être très intéressant, qui a l'air d'avoir une belle mécanique, des belles figurines de monstres aussi, puis il y a une espèce d'utilisation d'un plateau qui représente la ville. Ça fait évidemment penser à Rampage, c'est assez évident que c'est à ce que ça ressemble. D'ailleurs, l'extension que vous pouvez obtenir s'appelle le Rampage Expansion. Pour ce qui est de Monstro City, avec un super style graphique en passant et artistique, ils en sont à 29 000 $ de ramasser sur un objectif de 26 000, donc au cours du week-end, on a dépassé le financement. Il reste encore 20 jours à la campagne, ça se termine le 17 juin de ce côté-là. On a déjà 344 backers, donc on va commencer tranquillement à voir les objectifs s'ouvrir au courant des prochains jours. Si vous voulez vous procurer le jeu, il vous en coûtera à peu près 87 $ canadiens plus l'expédition pour la version Kickstarter qui comprend le jeu de base, l'expansion Rampage et les objectifs supplémentaires qui seront débarrés. Moi, ce que j'aime de vis-à-vis de cette campagne-là, c'est qu'il n'y a pas 50 000 versions, on ne se casse pas la tête. Il y a une version Kickstarter qui contient des exclusifs que vous pouvez vous procurer, donc un pledge qui est très simple à gérer, que j'apprécie beaucoup. Pour l'instant, pas d'add-on, on verra si ça va rester comme ça jusqu'à la fin. On passe tout de suite à la section des extensions et des accessoires. Le premier dont je voulais vous parler, c'est le nouveau sac pour le transport des jeux de société. C'est quelque chose qu'on a souvent besoin. On s'en va à une soirée de jeu chez des amis. On va amener 3, 4, 5, 6, 7 choix pour être capable d'alimenter la soirée selon ce que les gens vont avoir le goût de jouer. Donc c'est une belle option de ce côté-là. C'est une entreprise de New York qui a créé tout ça. Donc ça s'appelle le Game Canopy Deep Space, qui est vraiment un nouveau style visuel là, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et c'est vraiment des très beaux sacs qui s'adaptent vraiment soit à l'horizontale ou à la verticale. Donc si vous voulez traîner Gloomhaven par exemple, qui s'installe à l'horizontale et qui est gigantesque, c'est possible de le faire dans le sac. Vraiment deux types d'utilisation possibles. C'est intéressant. On en est à 104 000 de ramasser, 510 backers sur un objectif initial tout petit de 7 000. Il reste 8 jours à la campagne. C'est intéressant, ça commence à 99 $ pour le plus petit sac de ce côté-là et ça monte jusqu'à 169 $ pour le plus gros modèle qui est le Deep Space, Game Canopy Deep Space. C'est quand même cher. Là. Une suggestion que je vous fais, que vous pouvez aller voir sur Geekbécois dans la section jeux de société dans les accessoires, il y a des sacs à cajon qu'on appelle, qui est un instrument de musique à percussion qui se détaille à peu près entre 25 et 35 $ selon la période sur Amazon, qui font quand même la job. C'est pas la même robustesse peut-être là, au niveau de la construction, des coutures, etc. que le Game Canopy, mais on peut s'en tirer quand même à prix plus intéressant. Par contre, si vous voulez quelque chose de vraiment solide, c'est sûr que le Game Canopy peut être une belle option si vous voulez regarder ça. Et j'ai pas oublié la livraison prévue, moi j'ai pas une seconde, la livraison prévue est prévue pour 1000 mai 2020, excusez-moi, pour Game Canopy. Sinon, une extension qui a retenu mon attention cette semaine, une extension de jeu, c'est celle de Raccoon Tycoon, qui est un jeu de gestion de ressources, un jeu d'enchères où on doit acheter et vendre des ressources pour ramasser un maximum d'argent possible pendant le jeu. Il y a quelques autres petites choses qui se font à côté de ça. Et on en rajoute un nouveau composant qui est le Fat Cat Expansion qui va rajouter du nouveau contenu pour le jeu directement sur Raccoon Tycoon avec une nouvelle extension qui va ajouter encore un peu plus de dynamisme au jeu. C'est quand même intéressant. C'est Forbidden Games qui est derrière cette campagne-là, qui avait livré à peu près atteint de façon très efficace le jeu de base de Raccoon Tycoon, qui ont quand même eu d'autres campagnes aussi financées avec succès depuis. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Pour l'extension seulement, on est à 29$ US, donc si vous avez déjà le jeu de base, donc 39$ canadiens pour se procurer l'expansion. Par contre, un gros bémol, et c'est ce qui m'avait retenu, moi je suis allé au retail, donc au commerce de détail pour le jeu précédent, parce qu'on parle de 19$ US de shipping, ce qui me semble beaucoup pour une extension seulement. C'est 50% du même 66% du prix de vente, je trouve ça un peu cher. Donc, soit passer via un groupe, il y en a quand même sur Facebook, que vous pouvez rejoindre de ce côté-là pour un achat en groupe, ou sinon à peut-être attendre au commerce de détail, vous verrez. Par contre, si jamais vous voulez vous procurer le jeu de base en même temps, il y a cette option-là qui peut être intéressante aussi pour économiser sur les frais de livraison. C'est pas un jeu compliqué, Raccoon Tycoon, mais c'est comme la base d'un petit jeu de gestion d'enchères, etc., donc de variation du marché qui est quand même très intéressante, qui passe un petit moment intéressant à plusieurs sans devoir devenir trop compliqué comme certains de ces jeux de ressources-là. On en est à 122 000 sur un objectif tout petit initial de 6 000 $, près de 2 000 backers aussi. Fait que comme je vous disais il y a deux semaines, ces temps-ci, les bonnes campagnes, on est là, on est autour de 2 000 backers, pas plus, c'est tranquille. Il n'y a pas de campagnes énormes qui se sont passées dernièrement. J'en attends cette semaine, j'ai hâte de voir, il y a quelques trucs qu'on a remarqués qui devraient être intéressants, mais pour l'instant, ça a été tranquille dans les dernières semaines au niveau du nombre de backers par campagne et des objectifs des dollars totaux récoltés. Au niveau des autres campagnes qui ont retenu mon attention, dont je vous parle plus rapidement, si vous voulez rechercher un vrai euro là, qui a l'air d'un euro typique, qui a vraiment le style visuel avec les petits paravents classiques des euros et avec un maximum de jetons de bois aussi, il y a un jeu qui s'appelle De Vulgari Eloquenti en édition Deluxe. Donc c'est un jeu d'origine italienne, vous l'aurez deviné, qui en est déjà à 47 000 $ ramassés sur un objectif de 15 000. Donc on est déjà trois fois l'objectif, on a des objectifs supplémentaires, on a 789 backers à ce moment-ci. Ça se termine rapidement, ça va être jeudi cette semaine le 30, donc allez-y vite si vous écoutez ça et que vous avez le goût d'aller voir ça. Et ça vous coûtera pour le jeu avec l'édition de base du jeu, ça vous coûtera 72$ pour vous procurer le jeu de ce côté-là pour des Vulgari Eloquenti avec une livraison prévue en novembre 2019. Donc, on est pas mal avancé sur la production déjà, j'ai l'impression. Une autre nouveauté qui fait pas grand succès malheureusement, j'espère que la campagne sera pas annulée malgré qu'elle est financée, mais j'ai hâte de voir dans les prochains jours comment ça va se passer, mais c'est Connor McGooey qui avait fait Goris Maximus, que j'ai bien aimé, un petit jeu de cartes qui est sorti donc sur Kickstarter l'an dernier, là, qui est arrivé un peu avant les fêtes, si je me rappelle bien. Il nous revient ici avec un jeu qui utilise le thème de Cthulhu, qui est assez classique. Là. Pourquoi il est libre de droit à ce thème-là? Donc, c'est pour ça qu'on le voit de plus en plus être utilisé dans les jeux de société. Et on y va cette fois-ci avec un nouveau titre pour l'auteur canadien, en fait, qui vient de, comme je disais, de Halifax. Et ils offrent une nouveauté, ils offrent un système de remboursement si jamais vous n'aimez pas le jeu. On nous garantit aussi qu'il n'y aura pas d'ajout sur les tarifs, donc on va parler tout à l'heure. Donc, il est quand même prêt sur sa campagne, mais pour l'instant, c'est pas énorme au niveau des améliorations, mais j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner, résultat final, ou s'il va décider d'annuler la campagne, on verra bien. J'ai embarqué de mon côté, j'aime bien encourager évidemment les créateurs d'ici. Donc, Seven Souls Rise of the Elder Gods, si vous voulez aller voir sur Kickstarter, donc 18 000 sur un objectif de 13 000, donc financé, mais pas énormément, avec 9 jours à faire, 470 backers, pas très cher, 39$ canadiens. De ce côté-là pour se procurer le jeu, évidemment avec livraison en exclu. On continue du côté des titres qui ont quand même retenu mon attention, c'est Dice Upon a Time, quand même pas mal de succès lui aussi, là, trois fois l'objectif environ ou deux fois et demi, plutôt 33 000 quelque chose pour un objectif de peu moins de 15 000 $. On a 496 backers et il reste 8 jours à la campagne. Dice Upon a Time utilise, dans le fond, c'est un jeu de dés, mais qui utilise les personnages classiques, des contes classiques. C'est drôle, le plateau ressemble vraiment à un plateau des jeux de société de notre enfance. Le thème aussi, là, c'est ce genre de thème-là qui est utilisé, mais un jeu de placement de dés qui a l'air quand même très sympathique de ce côté-là, avec une bonne innovation. C'est des gens de Miami qui ont créé ça. Donc 496 backers, il reste 8 jours à la campagne, donc au 5 juin, et une livraison prévue pour janvier 2020. L'édition régulière vous coûtera aux environs de 50$ canadiens, 53$, et l'édition de luxe vous coûtera 66$ canadiens plus livraison. Pour Dice Upon a Time, avec un beau style artistique là, différent, ça frappe quand même, c'est intéressant d'aller jeter un œil si vous en avez envie. Donc l'avant-dernière campagne de ce côté-là, des campagnes qui ont retenu mon attention, c'est The 100 Tory, qui est issu d'un créateur que j'aime bien, qui s'appelle Eduardo Barraf, qui entre autres fait Herbaceous Sprouts, qui est très bon, un petit jeu bien sympathique que j'avais financé l'an passé. Dans 100 Tory, vous ferez du placement de tuiles, c'est vraiment donc un bon vieux jeu de placement de tuiles dans des jardins japonais qui a l'air d'être quand même très intéressant avec des composants et un style artistique de qualité. La campagne va bien, on est à 35 900 sur un objectif de 26 535 backers. Fait que vous voyez, c'est quand même spécial. Des campagnes qui réussissent, mais ces temps-ci, on attire à peu près ça 500 personnes, ce qui est un peu moins de vélocité selon moi que l'an dernier à pareille date sur la plateforme. Donc le jeu vous coûtera 39$ américains ou 52$ canadiens, livraison prévue en avril 2020 pour un jeu de placement de tuiles qui s'appelle The 100 Tory. Le dernier dont je vais vous parler, qui aurait dû être dans les extensions, en fait, c'est moi qui n'ai pas fait ma job comme il faut quand j'ai placé les choses, c'est l'extension pour Merlin, qui s'appelle Merlin Knights of the Round Table. Donc c'est un jeu qui vient s'ajouter dans le fond de chez Queen Games, qui vient ajouter nouvelle jouabilité à un de leurs jeux à grand succès qui s'appelle Merlin, qui avait déjà une première expansion, donc c'est une deuxième de ce côté-là. Et comme d'habitude, Queen Games vous permet de vous procurer aussi certains des jeux récents qu'ils ont créés en édition Kickstarter avec leurs petits ajouts qui s'appellent les Queenies. De ce côté-là, si vous voulez l'expansion de Merlin seulement, il vous en coûtera seulement 24$ canadiens pour l'obtenir, plus livraison. Si vous voulez vous procurer les deux expansions, donc Arthur et Knights of the Round Table, vous en serez aux alentours de 50$ canadiens. Et si jamais vous n'avez pas Merlin, vous voulez vous le procurer, vous pouvez le recevoir, les deux extensions et les deux Queenies, donc les mini-extensions de Queen Games, pour 121$ canadiens plus livraison. C'est intéressant, mais Queen Games, c'est pas donné au niveau de la livraison habituellement, donc assurez-vous vraiment, comme toujours, de bien vérifier vos frais de livraison avant d'embarquer dans la campagne. On en est à 47 000$ canadiens sur un objectif de 6 000$. Encore là, autour de 634 backers de ce côté-là pour la campagne. Et livraison prévue en août 2019. Ça veut dire que d'habitude, Queen Games, c'est plus une précommande. Le jeu est déjà fait, il est prêt. On va partir de la production aussitôt que le montant va être confirmé. Donc ça fait le tour des campagnes que j'avais remarquées cette semaine qui ont retenu mon attention, quelques-unes dans lesquelles j'ai embarqué, donc que je vous reparlerai lorsque les jeux arriveront dans le futur. Au niveau des sujets spéciaux, oui, cette semaine, ce que j'avais, c'est les tarifs dont on discutait tout à l'heure. Donc c'est évidemment, vous avez probablement entendu parler là, si vous suivez un peu l'industrie, mais il y a de la négociation présentement, ou les nouvelles en général, il y a de la négociation entre la Chine et les États-Unis au niveau des tarifs d'importation. Et un des éléments qui se ramasse dans tout ça, je suis pas sûr que c'est voulu, là, c'est un peu c'est une conséquence de tous les autres tarifs, mais il y a un tarif qui est prévu pour les accessoires de jeu. Donc on parle des dés, etc. Donc c'est vraiment, ça fait partie des éléments qui seraient impactés par ces nouveaux tarifs-là si les deux pays n'arrivent pas à s'entendre. Et on parle quand même de 25% d'augmentation, de 25% de tarifs, c'est-à-dire qui seraient appliqués sur les jeux. Ça a quand même un impact majeur sur Kickstarter. Ça va avoir un impact sur le prix des jeux en général dans l'industrie. Mais imaginez des campagnes qui sont financées maintenant, et ce serait en vigueur déjà à partir de la fin juin. Donc, il y a des campagnes qui ont été financées à un montant X, qui avaient tous évalué leurs frais de production, etc. Et là, ils viennent de se faire frapper d'une taxe sur leur prix coûtant de 25% des travaux. Donc, imaginez l'impact. Pour l'instant, la majeure partie des campagnes auxquelles je participe ont commencé à dire que ce ne serait pas remis au backer au niveau des coûts, mais j'ai l'impression que ça va peut-être même tuer certaines campagnes. Là. Ça va peut-être faire très mal. Donc, je vous encourage à vérifier dans toutes les nouvelles campagnes qu'il y a une mention, heureusement, là, ils semblent y penser, mais c'est important de s'assurer que les gens ont pensé à ces tarifs-là quand vous regardez la description de la campagne sur Kickstarter au niveau des coûts. Ça a déjà d'ailleurs eu un impact important. Il y a une entreprise qui en était à sa deuxième tentative en Espagne qui s'appelait Boombox Board Games qui tentait de financer un jeu qui s'appelle Mega Metro City et ils étaient parvenus. On était à plus de 1000 backers, on avait doublé l'objectif initial et on a annulé la campagne. C'est la deuxième fois qu'ils font ça. Fait que est-ce que c'est de la mauvaise planification? Est-ce qu'on s'attendait à ramasser 1 million mais on a mis juste 80 000 en objectif? Je le sais pas, mais ils ont annulé la campagne. La campagne a annoncé complètement la fermeture de l'entreprise, malheureusement. Et entre autres, ils citent non seulement d'autres éléments, mais surtout l'arrivée des tarifs qui sont arrivés là, presque vers le début de leur campagne. Donc malheureusement, ils disent que c'est plus possible de faire les jeux à montant intéressant. Donc ce serait terminé pour cette entreprise-là. J'ai hâte de voir combien d'autres campagnes ça va frapper de plein fouet tout ça. Un autre élément dont je voulais vous parler, je parlais d'une campagne avec la communication incroyable, c'est Chad Elkins qui a fait une campagne, en fait c'est la deuxième à laquelle je participe de lui, cette fois-ci, c'est une campagne qui s'appelle Space Explorers, et j'ai été surpris parce que quand la campagne a été expédiée, donc dans les dernières semaines, j'ai reçu un email le samedi soir, déjà recevoir, ou c'était le vendredi soir, mais en soirée tard, donc en dehors des heures de travail, disons, et j'ai reçu un email qui me disait, personnellement, de Chad Elkins à un groupe de personnes qui étaient cachées, évidemment, que certaines de nos commandes au Canada avaient été expédiées et malheureusement, elles avaient été expédiées des États-Unis. Donc, ce que Chad nous disait, c'est que ça avait un impact pour lui parce que ça allait nous amener des coûts de douane et il voulait s'assurer qu'on n'était pas fâchés de ça et qu'il allait nous rembourser les coûts si jamais il y avait des frais de douane. Il n'y en a même pas eu finalement, j'ai reçu ma commande, pas de problème, mais j'ai trouvé ça incroyable que Chad passe à côté de Kickstarter, prenne le temps d'écrire personnellement parce que ça n'affectait pas tous les backers du Canada, c'était juste un petit groupe, et ils nous écrivent. J'ai répondu rapidement, j'ai envoyé une petite note, ils m'ont répondu, donc j'ai vraiment aimé la communication. Je trouve ça spécial, puis on le vit là présentement dans un groupe sur lequel je suis, on le vit avec une autre campagne où il y a un manque de communication flagrant, et je comprends que c'est des gens qui ont d'autres métiers, c'est pas leur projet de juste société, c'est pas leur travail du quotidien, mais quand on est 500 backers, même si on avait chacun une question aux 3 mois, c'est un niveau de communication qui devrait pouvoir être gardé. Puis j'exagère, c'est vraiment pas autant de questions qu'ils peuvent recevoir, mais il y a quand même un manque de communication dans plusieurs de ces campagnes-là. Certaines entreprises sont très bonnes et d'autres en arrachent. Et j'ai adoré l'approche de Chad Elkins là-dessus. Et ça m'encourage. Comme je disais la dernière fois, c'est ce qui amène à repledger une deuxième fois, à aller pour une deuxième campagne. Donc du super travail de communication de ce côté-là. Je voulais aussi parler, c'est une petite chose là, c'est quelque chose qui m'énerve de ce côté-là, c'est aussi ceux qui ne remercient pas les backers à la réception du jeu dans la boîte. J'aime tellement quand les créateurs prennent le temps de mettre une petite note, de dire tout simplement merci d'avoir contribué au jeu. Souvent c'est dans les règles, c'est bien correct, encore mieux quand il y a une lettre qui est attaché, juste une feuille, là, ça prend pas quelque chose de formel. Il y en a qui font ça de façon incroyable, les gens qui ont fait Nemesis sur Kickstarter ont fait ça vraiment de façon merveilleuse avec une lettre enveloppée avec des cadeaux surprises dans la boîte qu'on n'était pas supposé recevoir. C'est Awakened Realms qui ont fait ça, ils sont les meilleurs là-dedans, mais j'adore quand les créateurs prennent le temps de le faire et ça fait vraiment toute une différence pour moi. Donc c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que j'en ai reçu quelques-uns, entre autres de Faceless qui ont fait un super poster avec le nom de tous les backers que j'ai trouvé très intéressant, malgré les petits enjeux dont on a parlé il y a 2 semaines, j'ai trouvé ça quand même qu'ils ont fait cet effort-là. Je déteste ouvrir mon Kickstarter, avoir participé, contribué au projet du créateur et finalement, malheureusement, pas vraiment recevoir le merci. C'est simple, un petit merci. On remercie les testeurs, certains, ils remercient une vingtaine de personnes dans les tests, etc. Mais il n'y a même pas une ligne pour dire merci à tous les backers sur Kickstarter. C'est tellement simple de le faire et j'espère le voir de plus en plus de ce côté-là. Sinon, je termine l'émission en vous parlant des jeux que j'ai reçus. J'en parlais tout à l'heure, Space Explorers, que j'ai eu la chance de recevoir la semaine passée avec la version Deluxe, avec le tapis de jeu qui est superbe, avec les pièces de bois qui sont de taille impressionnante aussi. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore, comme je disais, mais c'est vraiment une belle qualité à date que j'ai vu au niveau des composantes. Il m'a été aussi, j'ai été donc Neta Tanka, dont je parlais tout à l'heure, que j'ai reçu, que j'ai aussi bien hâte d'essayer, qui a l'air d'avoir des composantes incroyables. Avec le niveau de la campagne, ils ont mis des boîtes de rangement. La boîte est bien conçue. C'est pas une insert traditionnelle, mais c'est vraiment une boîte très, très bien conçue que j'ai vraiment hâte de voir à quel point elle va être facile à aider à la facilité à la mise en place du jeu. Et le dernier que j'ai reçu, c'est U-Boot, qui est une campagne donc dans laquelle on contrôle un sous-marin à 4 joueurs et on s'en va, dans le fond, se battre. On est un sous-marin allemand, un U-Boat. Des petits enjeux au niveau d'expédition de ce côté-là. Si vous pouvez aller voir les commentaires sur la campagne Kickstarter, malheureusement, pas de cellophane autour des cartes, donc j'ai reçu des cartes qui sont un petit peu brisées. Le matériel était un peu laissé libre dans la boîte, dans le transport, ça s'est abîmé un peu. C'est un peu décevant au niveau de la campagne. Je trouve c'est tellement facile de. Il faut réussir jusqu'à la fin. C'est des petits détails, mais juste mettre du cellophane autour des cartes, je pense pas que ça aurait changé les coûts de production de façon énorme et ça aurait évité bien des plaintes. On est obligé de renvoyer des cartes. Je pense entre autres à Seven Continents que j'ai reçu tout à l'heure. Je vais vous en reparler. Je viens juste de le recevoir aujourd'hui. J'ai la nouvelle extension où on a refait des cartes. Donc on s'est donné la peine de refaire des cartes, puis on s'est encore trompé sur deux cartes. Donc ça coûte cher à la longue. L'assurance qualité est vraiment importante de ce côté-là. Mais U-Boat a la au niveau du jeu, par exemple, ça a l'air d'être un jeu très solide avec les applications qui le supportent. Très hâte de l'essayer. Et sinon, je termine avec Dig, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, qui est un petit jeu de push your luck, donc de pousser sa chance pour réussir à ramasser un maximum de pierres précieuses dans une grotte ou dans une exploration minière, où laquelle on va jouer contre les autres joueurs, on va pouvoir s'attaquer, se nuire, se protéger, etc. Et des monstres aussi vont nous attaquer. Sympathique, pas beaucoup de mécanique de rattrapage, donc si jamais un joueur s'envole et prend la tête, c'est dur de le rattraper. Mais un beau petit jeu, ça me fait penser un peu à un Diamant, par exemple, de Bruno Faiduti, mais juste un petit peu plus compliqué de ce côté-là, avec un peu plus d'éléments, un petit peu plus gamer. C'est pas parfait, mais ça fait passer un beau petit moment de ce côté-là, avec l'extension aussi qui est la dernière campagne venait avec l'extension du dragon, qui rajoute un beau niveau de pusher luck encore plus supplémentaire. Voilà, ça fait le tour des 2 dernières semaines sur Kickstarter. Je sais qu'il y a des grosses campagnes qui s'en viennent. Je vous invite à vous connecter au podcast dans 2 semaines pour encore plus. D'ici là, bon jeu, profitez-en bien et toujours disponible pour vos commentaires et vos questions. Merci, au revoir.